Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers auditeurs, une petite pensée pour Tina ce matin qui nous a quittés, Tina la rebelle. Bon, je vais faire la rebelle aussi, je vais commencer à tutoyer tous mes confrères. Bonjour Olivier.
Bonjour Myriam.
Alors je reçois aujourd'hui Olivier Contré de l'agence Bartolo Contré, bonjour donc. Et donc nous allons nous tutoyer. Alors, ça fait, je sais pas, 4-5 ans que tu es passé dans mon émission. Entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts et surtout, plein de projets. Du logement à l'hospitalier, de l'hospitalier au logement, il y a une espèce de d'immersion entre les deux sphères. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, on conçoit les logements d'une manière peut-être plus intéressante sur le plan de la santé, de l'habitabilité, et peut-être justement pour éviter d'aller à l'hôpital et qu'on conçoit les hôpitaux un petit peu plus insérés dans la ville pour justement ne pas avoir l'impression qu'on est dans un hospice. Hein.
Écoute, l'hôpital et le logement, c'est deux programmes presque antinomiques.
Bien sûr.
Hein, on est d'accord. Et on ne conçoit pas du logement comme on conçoit un hôpital. On n'est pas, a priori, sur les mêmes morphologies, les mêmes épaisseurs de bâti, les mêmes densités, les mêmes surfaces. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. On est d'accord. En revanche, il y a une façon de concevoir les hôpitaux qui est un peu universel, qui permet de, comment dire, d'approcher la complexité, puisqu'il y a de la complexité dans la conception du logement, et elle n'est pas seulement liée à l'architecture, elle est liée au contexte, aux opérateurs, etc. Et donc, cette façon d'approcher le logement est assez inspirée par l'approche hospitalière, est assez nouvelle. Enfin, disons qu'elle est assez nouvelle. Je découvre un peu le monde du logement.
Oui, parce que pendant longtemps, à l'agence, vous avez quand même plutôt travaillé sur d'autres types d'équipements, des équipements, et pas tellement sur le logement. Alors, le premier grand projet de logement, c'est Bobigny.
Oui, Bobigny en chantier, qui se terminera à la fin de cette année, si tout va bien. Donc on construit une tour de 50 mètres, et puis un autre bâtiment qui recevra des logements sociaux. Voilà, et puis aussi des études en cours sur Château-Thierry, par exemple, où on fait 80 logements de tranches. Et alors ça, c'est un exemple qui
oui, en quoi ce projet, par exemple, de Château-Thierry, est vraiment différent, où tu as l'impression que dans la conception, dans la réponse à la maîtrise d'ouvrage et au programme, vous avez sorti ou vous avez initié quelque chose de différent sur le vivre dans le logement?
Alors, la première réflexion, c'est que on conçoit ce bâtiment à un moment donné où la crise des matériaux, le coût des matériaux et le coût carbone de certains matériaux est immaîtrisable. Et une chose qu'on sait malgré tout, c'est que le coût de l'acier et du béton, le coût à la fois économique et carbone, nous incite à en consommer le moins possible. Alors, quelque part, c'est par la contrainte, cette contrainte-là, qu'on a été un peu invité à imaginer le logement différemment. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on faisait une recette de cuisine et que dans le frigo, il nous manquait les œufs. Mmh. Hein, et qu'il fallait innover, c'est-à-dire imaginer la recette.
C'est bien, la contrainte, c'est pas toujours désagréable.
Et c'est même essentiel. Donc, on a fait un bâtiment où on a fait en sorte de consommer le moins possible de béton. Et du coup, ça a entraîné donc la conception d'un bâtiment en poteau dalle, et puis remplissage avec des matériaux plus écologiques.
C'est quoi ? C'est du bois, de la brique, la terre
On est sur une terre cuite. Une terre cuite, mais qui dont le bilan carbone est bien inférieur à celui du béton. Alors, du coup, on a des logements en poteaux dalle, ce qui fait penser énormément à la façon dont on conçoit les hôpitaux, notamment.
Donc avec une flexibilité d'usage et avec une possibilité de faire évoluer le logement.
Voilà. Alors, après, on peut regarder ça à plusieurs échelles. La demande des résidents recensés dans le rapport Leclerc, c'est plus de hauteur sous plafond, une pièce en plus,
des rangements, grand espace extérieur,
etc. Mais c'est également le besoin de pouvoir évoluer. Il ne faut pas l'oublier, c'est que les gens ont le droit de rêver, et rêvent. Et transforme leur habitat.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'on trouve les maîtres d'ouvrage qui sont d'accord de faire évoluer le... Parce que quand on est dans le logement social, je dirais que le rapport Leclerc ou d'autres interventions sur le logement peuvent avoir une écoute. Lorsqu'on est en accession avec des promoteurs, est-ce qu'ils sont en mesure d'aller vers ce chemin-là, dans ce chemin-là ?
Eh bien, les planètes s'alignent. Ah oui, parce qu'on fait ça pour des raisons économiques. Donc en fait, il y a une équation gagnante, quelque part.
C'est donc sur le poteau dalle, je suis d'accord avec toi, mais sur le fait d'avoir des grands espaces extérieurs, plus de hauteur sous plafond, etc., est-ce que la commande est à la hauteur du besoin ?
Alors, sur le prolongement des espaces extérieurs, dans la mesure où c'est une opération en région, c'est un peu la donne de départ. On n'est pas en Île-de-France, mais effectivement, on va calibrer les loggias avec un cercle de 150 et en se disant que ça serait bien suffisant. Non, on n'en est pas là, parce que les gens qui habitent un appartement en région le font au détriment d'une maison, et donc il leur faut des espaces extérieurs. Donc ça, c'est pas un souci. Et ensuite, c'est sur la superficie des logements, et la superficie des logements, également la superficie des pièces de vie. Et je dirais que là encore, la science de l'hôpital s'applique. Pourquoi ? Parce que quand on conçoit un hôpital, on est habitué à rentabiliser énormément les plans. Et je me rends compte qu'un logement peut être également extrêmement rentabilisé. C'est quoi ? C'est diminuer la surface de circulation pour favoriser les pièces de vie.
Oui, enfin, on a quand même des sanitaires avec l'obligation d'être PMR et avec du coup un sanitaire dans lequel on pourrait faire une salle de bal. Donc cette réglementation-là, de toute façon, elle nous contraint.
Oui, mais les sanitaires, c'est la pièce en plus, hein, aujourd'hui. Donc, quelque part, avec la possibilité d'offrir 80% de logements évolutifs, on arrive à trouver des combines pour optimiser les salles de bain en faveur des pièces de vie.
Alors, cette nouvelle façon à Château-Thierry pour concevoir le logement et donner un petit peu plus de respiration à ce logement, issu en partie de poteaux dalle, remplissage et puis tout ce que tu as évoqué précédemment, en quoi l'hôpital de demain, en quoi ce nouvel hôpital et un peu tous les projets que vous avez, que ce soit à Bordeaux, à Chartres ou à Cayenne, sont innovants ? Parce que là, on a parlé d'innovation dans le logement et dans l'hôpital, sur les projets d'hôpitaux.
Alors, ce qui est innovant, première chose, ce qui est innovant, c'est qu'une jeune agence fasse des hôpitaux.
D'accord. Donc, d'habitude, c'était installé.
Puisqu'on est une vingtaine en France et que nous sommes le 20e. Sur plusieurs dizaines de milliers d'architectes. Donc ça, c'est la première innovation. Bon, je suis pas là par hasard, comme tu le sais.
Ouais.
Et donc, ayant co-inventé le monospace, la communauté hospitalière...
C'était peut-être pas évident de passer à la commande, hein.
Parce qu'entre... Oui, c'est certain. Alors, qu'est-ce qui peut être innovant dans l'hôpital d'aujourd'hui? Ce qui est innovant, c'est de répondre à une problématique. Le monospace répondait à une problématique de santé publique, clairement identifiée par Mattei dans les années 2000. Par également cette volonté de passer de la tour à l'hôpital allongé.
Allongé, oui.
Bon, voilà. Et l'organisation des soins sur la tarification T2A. Tout ça, ça a fabriqué le monospace comme une morphologie indispensable.
Bon. Mais elle date d'il y a 20 ans. Donc aujourd'hui...
Oui, merci de
Non, c'est juste pour dire qu'à un moment donné, l'innovation aujourd'hui, c'est voilà. Quand même plutôt l'ouverture sur la ville.
Alors, c'est pour ça que je pose la question, qu'est-ce qui a changé dans le soin, dans les besoins du personnel soignant? Ce qui a changé, c'est la raréfaction de la ressource humaine. Le besoin de pouvoir habiter à côté de son lieu de travail. La crise Covid qui nous a enseigné la nécessité de faire des hôpitaux élastiques, c'est-à-dire la possibilité de faire cohabiter deux types de soins, le type infectieux et le type non infectieux. C'est le cas de l'hôpital de Cayenne. Et ensuite, il y a une nouvelle donne qui est là, non hospitalière, on va dire, non de santé publique, c'est la nécessité de faire des hôpitaux environnementaux, c'est-à-dire responsables et co-responsables. Et quelque part, c'est une nouvelle donne pour le monde de la santé. Parce qu'on a construit en toute impunité depuis 30 ans, il faut le savoir, depuis des années, on a pensé que l'hôpital était plus important que la planète, que la santé humaine était plus importante que la santé de la planète. Et aujourd'hui, on commence à comprendre que les deux sont liés à cause de la crise Covid. Donc ça veut dire que Cayenne est un hôpital qui est réversible, que l'hôpital de Chartres est un hôpital
Je vais juste arrêter, Olivier, parce que là, on arrive à la fin de l'émission. Te donne rendez-vous dans la prochaine émission pour justement un petit peu plus discuter de ce sujet. Merci, chers auditeurs, et à bientôt sur nos antennes.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.